Axel Villard à la une aujourd'hui. Ce microbiote céréal, n'importe quoi, cérébral, c'est une découverte.
Mathieu. Mais oui, il se pourrait bien que des bactéries vivent en nous jusque dans notre cerveau. En tout cas, depuis quelques années, les preuves s'accumulent et les dernières en date nous viennent des États-Unis où lors d'un congrès en neurosciences à San Diego, des images de bactéries bien en chair à l'intérieur d'un cerveau humain ont été présentées et relayées par la revue Science. Rien de publié encore, mais l'occasion d'en discuter avec vous, Benjamin Lelouvier, depuis les studios de France Bleu à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences, directeur scientifique de la société Viomer, qui est rattachée à l'INSERM et spécialisée dans la détection bactérienne à l'intérieur des tissus. Alors, l'idée que des bactéries pouvaient vivre en nous, on commence à s'y faire, mais dans le cerveau, quand a-t-on réellement commencé à le penser ?
Alors ça c'est très intéressant, donc faut reprendre le contexte du microbiome qui est un sujet qui est vraiment à la mode depuis 10-15 ans grâce à des avancées technologiques importantes. On en parle souvent dans vos émissions, on se rend compte que toutes les bactéries qui sont dans l'intestin ont un rôle beaucoup plus important qu'uniquement un rôle digestif et un rôle dans beaucoup de fonctions du corps, et y compris avec un rôle en distance. Donc, il y a quelques années, un certain nombre de chercheurs, dont Rémy Bourcelin et Jacques Amar à l'INSERM à Toulouse, on se sont dit, mais si ça se trouve, ces bactéries ne sont pas que dans l'intestin, ils se trouvent également dans d'autres tissus. Ils ont commencé à étudier le rôle des bactéries dans le tissu adipeux, dans le sang, dans le foie, en rapport avec le diabète et l'obésité. Et ils ont été amenés à créer la société Viomer, dont je suis directeur scientifique. Et on a mis au point des techniques très spécifiques, parce que c'est très compliqué d'utiliser ces bactéries dans les tissus. Et on a à Viomer, donc, une capacité à regarder l'ADN bactérien, c'est-à-dire on ne regarde pas les bactéries directement, mais des produits bactériens qui peuvent correspondre ou pas à des bactéries vivantes. Et un des endroits où on regarde, c'est dans le cerveau. Dès 2015, on avait publié le microbiote cérébral sous forme d'ADN bactérien chez la souris. Et depuis, on peut en reparler, on étudie également le rôle de ces bactéries dans le cerveau et dans le sang, dans les différentes maladies, dont les maladies d'Alzheimer.
Alors nous, on est en train d'annoncer quelque chose qu'on présente comme un scoop, mais vous nous dites, pour nous, c'est pas une surprise, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, c'est ça en fait ?
Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, on n'est pas les seuls, il y a plusieurs gens dans le monde qui étudient les bactéries. C'est ce qui est plus nouveau, c'est de dire que des gens sains, c'est-à-dire qui ne sont pas malades, ont des bactéries dans le cerveau. Les bactéries dans le cerveau, que ce soit chez les patients qui sont atteints du sida, des patients qui ont des problèmes neurodégénératifs, des patients évidemment qui ont des infections, à la limite, ça fait assez longtemps qu'on l'étudie, à la fois parce que c'est assez logique d'y penser, et à la fois parce que c'est des cas où la technique classique permet d'étudier ce type de microbiote dans le cerveau. Ce qui est nouveau, et qui est d'ailleurs plus ou moins accepté par la communauté scientifique selon le passif de la personne à qui on... à laquelle on parle, c'est l'idée que même chez un individu sain, chez nous, chez tous nos auditeurs, on a un certain nombre de bactéries vivantes dans le cerveau qui ont un rôle peut-être pour la santé, qui ont un rôle pour la pathologie. Quand on parle en congrès et qu'on montre nos résultats où on voit de l'ADN bactérien dans le cerveau, donc qui peut correspondre à l'ADN à des bactéries vivantes, si on parle des neuroscientifiques, il y a une certaine résistance parce que je suis moi-même neuroscientifique de formation, donc j'ai partagé cette résistance. On a un DOM qui est la barrière hématoencéphalique et qui est une espèce de frontière infranchissable autour du cerveau, et de dire que des bactéries passent à travers cette barrière, c'est presque péjoratif, j'ai envie de dire.
Ouais, Sébastien Boller.
Aujourd'hui, on sait que ces bactéries se retrouvent dans les cellules immunitaires, sont capables de transvaser cette barrière, et il y a de plus en plus de preuves, donc nous sous forme d'ADN bactérien, le poster dont vous parlez, les études à San Diego montrent à la fois par microscopie chez l'homme et chez la souris des bactéries vivantes dans des individus a priori sains, même si chez l'homme c'est post-mortem, donc on peut se poser la question. Donc il n'y a plus trop de doutes sur le fait qu'il y ait des bactéries dans le cerveau. La question est, est-ce que c'est totalement marginal, ou est-ce qu'il y a vraiment un microbiote riche et quantitatif qui a un rôle dans la vie de tous les jours et qui peut être impliqué dans de nombreuses maladies.
Sébastien Boller, vous qui êtes rédacteur en chef de Cerveau Psycho, est-ce que vous le saviez que nous avions des bactéries justement dans le cerveau ? C'est une découverte aussi pour vous aujourd'hui.
Je me félicite de venir à la tête au carré. Parce
que on apprend des trucs sur le cerveau.
Mais c'est très étonnant parce qu'on sait que le microbiote intestinal a un rôle probablement sur des phénomènes cognitifs liés à l'humeur, parce qu'il y a une rétroaction de l'intestin vers le cerveau. Et là, je sais pas, je m'adresse à vous.
Benjamin Lelouvier.
Voilà. Est-ce que, à votre avis, ce microbiote cérébral pourrait aussi moduler un certain nombre de fonctions cognitives, l'humeur, des comportements? Est-ce qu'il y a déjà des axes de recherche qui sont lancés de ce côté-là?
On vous laisse répondre.
Tout à fait, et nous-mêmes, notamment avec Sylvie Clessen, qui est chercheur à l'INSERM de Montpellier, on étudie le rôle de ces microbiotes dans le cerveau et dans le sang, dans les maladies d'Alzheimer. On a des travaux chez la souris qui sont en cours de publication, qui vont d'ailleurs être présentés à l'événement Back to Back, qui est un congrès qu'on organise avec de nombreuses sociétés, l'INSERM, l'INRA, le CNRS, le pôle de cancer biosanté. On va organiser un congrès le 11 et le 12 de décembre à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, où on va parler du microbiote, de l'antibiorésistance, et on va une première mondiale, et Sylvie Clessen va présenter nos résultats qu'elle a fait avec nous sur le rôle du microbiote dans des modèles d'Alzheimer chez la souris. On montre comment ce microbiote est changé, donc nous on regarde l'ADN, mais on montre comment on peut moduler le microbiote avec à la fois les antibiotiques et des probiotiques, donc des molécules qui activent les bactéries, et comment ça réduit les symptômes de la maladie d'Alzheimer chez la souris. Et on est en train de préparer des cohortes humaines pour vérifier aussi le rôle du microbiote dans les maladies d'Alzheimer.
Alors, très court, Benjamin Lelouvier, pour le moment, ce sont des faisceaux de preuves qu'on a. Qu'est-ce qui nous empêche encore aujourd'hui d'affirmer qu'elles vivent bien en nous, sous notre crâne, ces bactéries ?
Bah en fait, pour cela, il faudrait qu'un de vous me donne un cerveau vivant. En fait, le vrai problème, c'est que nous, on a vu... Alors, il y a un problème technique qui est... C'est pas si facile que ça de regarder les bactéries vivantes. Nous, on regarde une preuve indirecte qui est l'ADN bactérien, qui peut correspondre à des bactéries vivantes au moment où on les observe, ou à des résultats de bactéries qui étaient soit vivantes dans le cerveau avant, soit qui viennent de l'extérieur. Donc, le premier problème, il est technique. C'est pas si facile que ça de voir la bactérie vivante. Le deuxième, c'est comme je le disais, il faudrait des cerveaux vivants. Évidemment, ça, on peut le faire, oui, chez la souris. Mais ce qui est montré donc à San Diego est très clair. C'est-à-dire qu'ils prennent des souris avec des souris sans bactéries qu'on appelle des souris axéniques. Dans un cas, ils voient des bactéries par microscopie dans le cerveau. Dans l'autre, ils ne le voient pas. Donc, chez la souris, il n'y a plus aucun de doute de dire qu'il y a des bactéries vivantes dans le cerveau, et il n'y a pas raison de penser que les souris auraient des bactéries vivantes dans le cerveau et pas l'homme.
On attend juste la publication,
par contre. Savoir est-ce que c'est anecdotique, est-ce que c'est quelques dizaines de bactéries qui ont échappé le système de défense de l'organisme humain qui se retrouve dans le cerveau, ou est-ce que c'est des millions de bactéries qui sont dans le cerveau en coopération avec les cellules humaines. Ça, c'est une question qui reste à éclairer, et pour cela, ce type de preuves qu'on accumule au fur et à mesure des années va permettre à la communauté scientifique de vraiment s'intéresser à ce sujet et de mettre les moyens qu'il faut pour l'étudier.
Bon, on fera peut-être bientôt une émission sur le microbiote cérébral, en l'occurrence Benjamin Lelouvier. Merci beaucoup pour vos explications. Vous étiez en duplex de France Bleu à Toulouse. Merci à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le pancréas artificiel Diabète Loop est autorisé en France pour les diabétiques de type 1, proposé par la start-up française du même nom. Il vient d'obtenir donc son marquage CE. Le dispositif est constitué d'une pompe fixée sur le bras et d'un capteur sur l'abdomen. Les informations sur la glycémie sont transmises à un smartphone qui, grâce à des algorithmes, sert de pancréas pour ajuster en temps réel donc le niveau de sucre des patients. Pour son lancement, Diabète Loop sera accessible uniquement via une prescription médicale d'un diabétologue. La Lune aurait accueilli la vie par deux fois durant son histoire, peu après sa formation, il y a 4,4 milliards d'années, mais aussi il y a 3,5 milliards d'années. L'atmosphère de notre satellite aurait permis à l'eau liquide de subsister. Ces estimations publiées dans la revue Astrobiologie vont certainement relancer la recherche de traces anciennes de vie sur place, d'autant que durant le second épisode d'habitabilité lunaire, la vie grouillait déjà sur la Terre. Vous pouvez lire d'ailleurs un article complet sur cette question sur le site de la revue Ciel et Espace. Et puis pour terminer, une technique de camouflage sonore très efficace pour éviter les chauves-souris. Certains papillons de nuit ont développé une protection infaillible. Les poils de leur thorax sont capables en effet d'absorber une grande partie des ultrasons qu'ils reçoivent grâce à des structures nanométriques décrites pour la première fois et appelées des puissants sons. Les papillons sont invisibles ou plutôt inaudibles, entre autres pour les chauves-souris.